Québec, Mauricie, Outaouais, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Au réseau Cogeco.
Jérôme Landry.
Jonathan Trudeau.
Beau
Landry.
Bonjour et bienvenue. On s'est rendu à vendredi. C'est la fin de la semaine. C'était le retour au travail pour plusieurs cette semaine. Première semaine complète pour bien des gens. Donc, bon début de week-end et bienvenue dans Trudeau Landry. On vous accompagne pour les prochaines heures. Pour nous joindre, c'est le 25-226 via texto. Bonjour, Jonathan.
Hello.
Nico qui va se joindre à nous dans les prochaines... C'est la première fois que Nico n'est pas là, là, quand l'émission commence. Je suis comme tout déstabilisé.
On a notre feuille de route. On a... Les invités sont bookés.
Et oui, tout est là, tout est prêt. Donc, voilà, et on vous accompagne donc pour les prochaines heures ici. Et j'ai le goût d'aller ailleurs un peu ce matin, même en commençant l'émission. Mais il y a quand même quelques éléments d'actualité. On a appris dans les dernières minutes l'arrestation de la mère de la fillette de 7 ans qui semble avoir été martyrisée à Laval. On vous a parlé de ça dans les derniers jours. Il faut pas perdre de vue ce genre d'événement-là. Il faut faire les suivis, je pense, c'est très, très important. Parce qu'on oublie vite des fois, hein. Il se passe des choses dans l'actualité. Puis là, on dit « Ah, c'est donc bien épouvantable. » Puis après ça, on passe à d'autres choses. Et donc, ce matin, on a appris qu'à Laval, cette femme-là, la mère de la fillette de 7 ans, avait été arrêtée et accusée de négligence criminelle causant la mort. Donc, ça a été confirmé par la police de Laval. Donc, il y aura comparution dans cette histoire-là. On avait ce qu'on avait compris là-dedans, là, c'est que bon, il y avait plusieurs membres de la famille qui avaient été rencontrés par les policiers.
Ouais, c'était 6 ou 7.
Ouais, puis on parlait de brûlures, de sévices corporels importants. Là. C'est une histoire qui ressemblait, bon, un peu. On pensait à Aurore l'enfant martyr. Là, on fait souvent référence à ça quand il est question de ça. Mais donc, il y a une arrestation qui a été confirmée par la police de Laval. Autre chose.
Excuse-moi, tu mentionné le motif négligence criminelle causant la mort.
Oui,
tu l'as dit,
okay. Exact. Et autre chose qu'on a appris aussi dans les dernières minutes, là, je lisais, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Là. Puis je pars pas une demi-heure sur la COVID, ça me tente pas beaucoup ce matin, je vais être honnête avec vous. Là. On apprenait qu'il y aurait peut-être des délais pour la livraison des vaccins de Pfizer au Canada. Il y aurait un réaménagement là dans les entrepôts, dans les installations en Europe. Et ça retarderait possiblement la livraison de certaines doses de vaccins au Canada. Il y a peu de détails là-dessus, là. Vous connaissez l'enjeu, là, jusqu'à quel point c'est l'espoir de voir la lumière au bout du tunnel et de sortir du maudit tunnel repose sur la vaccination. Il n'y a pas d'autre solution. Et on veut que tout le monde soit vacciné le plus rapidement possible et le plus tôt possible. Et ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle qu'on a appris ce matin. On verra les conséquences. Comme je vous dis, il y a très, très peu de détails qui sont disponibles en lien avec ça. Puis, gros week-end, les boys! Gros week-end en fin de semaine, de prévu, grosses activités.
Tranquille, hein? En fait, l'activité principale de prévu, ça va être du déneigeage.
Ah oui?
Parce qu'il nous attend, il nous annonce ici un genre de 30 cm. Fait que là, je me suis dit, oh, OK, en fin de semaine, on va déneiger, les enfants vont pouvoir aller jouer dans la nouvelle neige, ça risque d'être ça le fait saillant. Là. À part de ça, ça va être assez tranquille.
C'est confirmé, on n'a pas de vie. C'est nos vies sont rendues tristes et plates. On n'a pas le choix, on le sait, on collabore, mais c'est un constat qui est un peu plate à faire. Et c'est là que Nico prend toute son importance, je trouve. C'est là que Nico, on se dit, Nico, Lacroix est un service essentiel. C'est notre gars de divertissement, de musique, de séries télé, de films. Nico, j'ai le goût de te passer à rondelle en début d'émission comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Les gens veulent décrocher, les gens veulent s'évader, on est pogné chez nous, confiné, le couvre-feu, pas d'activité, pas de souper, pas de resto. C'est comme ça depuis des semaines. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, Nico?
Vraiment, ça fait, toi et moi, ça fait 2 ans et demi qu'on collabore. C'est ma journée de sortie vidéo la plus fournie depuis qu'on travaille ensemble.
OK. Ah, oui. Bonne nouvelle. Ça tombe bien.
Je suis un peu surpris moi-même, d'ailleurs, mais on dirait qu'on s'est passé le mot pour lancer beaucoup, beaucoup de stocks en ce début d'année. Donc, à partir du 15 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez, entre autres, je vous ferai même pas tout le tour. On va faire les principales nouveautés. Je vous ai parlé récemment d'une des séries sur Apple TV Plus qui s'appelle Servant, qui est une série fantastique de M. Night Shyamalan.
Oui.
Ça met entre autres en vedette celle qui jouait Claire dans Six pieds sous terre, Lauren Ambrose, et Rupert Gint qui est dans Harry Potter. La deuxième saison commence aujourd'hui sur Apple TV Plus. On a sur Disney Plus la première série télé Marvel, parce qu'il y en a une couple sur Netflix, mais ça, c'est des droits qu'on avait donnés, si vous voulez, ou vendus dans ce cas-ci à Netflix. Mais là, la première série télé de Marvel arrive aujourd'hui sur Disney+. Ça s'appelle WandaVision, parce que ça met en vedette deux personnages qu'on a vus dans tous les Avengers, Wanda et Vision. Et je vous dirais que c'est ce que Marvel a fait de plus audacieux depuis au moins Guardians of the Galaxy, okay. Sinon plus audacieux que ça encore. Parce que, et j'ai vu juste les trois premiers épisodes, il y en aura d'autres, mais je peux juste me baser là-dessus. Parce que actuellement, la série est un... C'est même pas une parodie, c'est une imitation des sitcoms américaines des années... Premier épisode, c'est des années 50.
Oui, oui.
Deuxième épisode, c'est des années 60. Et troisième épisode, c'est des années 70.
Fait que c'est, mettons, Genie, là.
Genie, ma sorcière bien-aimée, okay. Papa a raison.
Ouais, ouais,
mais
ces
avec Wanda et Vision dans les rôles principaux.
Mais c'était bon, Genie. D'ailleurs, je la vois plus pareil.
C'est vraiment parodie.
C'est pas parodie, c'est vraiment pareil. Comme
c'est ça.
C'est le même genre de dialogue, c'est le même genre de situation. Mais il y a une raison pour ça. Il y a un mystère qui englobe tout ça, sauf qu'au troisième épisode, on n'a pas beaucoup d'indices sur c'est quoi le mystère.
Ah, c'est-tu les multiverses, là? C'est-tu dans ce concept-là des univers parallèles?
J'ai aucune idée.
Okay.
Fait que ça va être intéressant à suivre. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, mais il faut être prêt, justement, à voir quelque chose de différent. Et je trouve que ça donne une superbe vitrine à Elizabeth Olsen, qui joue Wanda, la sorcière écarlate, la sorcière rouge. Qui a pas eu l'occasion de jouer sur ces registres-là dans tous les films de Marvel jusqu'à maintenant. Mais là, elle fait vraiment d'autres choses et elle est excellente dans ce...
Mais tu me fais penser, je pense que je vais me retaper des vieux Genie aussi. Je vois plus ça pareil, Genie, comparativement à quand j'étais petit gars.
C'est-à-dire?
Je sais pas, je te laisse. Je vois plus ça pareil.
Oui,
peut-être. Ben d'ailleurs, il y a mon idole, une de mes idoles, Larry Hagman, qui joue le rôle de celui qui hébergeait Genie.
Dallas.
Mais il y a des choses que je remarquais pas dans les années 80 que je remarque plus aujourd'hui quand je regarde Genie aujourd'hui, ouais.
Comme?
Ben des détails, certains détails, là, sur les costumes.
Mais comme?
L'habillage, les costumes.
Étais-tu plus Genie ou ma sorcière bien-aimée?
Aujourd'hui, je suis plus Genie. Dans le temps, j'étais les deux.
OK.
il y a un petit quelque chose dans Genie.
Moi, j'aurais plus Genie.
Ah oui, OK, OK. Ouais. À part ça, Nico, y a-tu d'autres choses?
On a parlé cette semaine d'une nouveauté qui met en vedette Tom Hanks.
Oui.
News of the World. Ce n'est pas sur Amazon Prime. C'est sur les services de vidéos sur demande. Quand je vous parle des services de vidéos sur demande, ça veut dire, peu importe ce que vous utilisez pour louer ou acheter des films de chez vous, donc Google Play, entre autres. YouTube le fait de temps en temps. Apple TV, évidemment, là, iTunes. C'est disponible là-dessus. Ça veut dire que ça va vous coûter le prix de deux billets de cinéma pour voir le film de chez vous. Mais c'est une grosse production. News of the World, ça met en vedette. Donc Tom Hanks, c'est un western de Paul Greengrass qui a fait, entre autres, les premiers Bourne. La mémoire dans la peau et tout ça. C'est un vétéran de la... C'est pas une histoire vraie, mais c'est basé sur des choses relativement vraies. C'est un vétéran de la guerre de sécession qui parcourt des États-Unis et lui, il apporte les journaux puis il lit les nouvelles à la population.
Okay.
Sinon, il y avait pas de radio, évidemment, dans ce temps-là. Donc, c'est la façon qu'ont les gens pour se tenir au courant de ce qui se passe. Il y a deux semaines, si vous en souvenez, je vous ai parlé d'un film qui s'appelle Promising Young Woman, qui met en vedette Carrie Mulligan. C'est une jeune femme qui fait semblant d'être saoule dans les bars pour voir ce que les hommes vont faire. Et ça, c'est le point de départ du film.
C'est où ça qu'on voit ça?
Ça aussi, c'est en vidéo sur demande.
Vous le
louez à une vingtaine de piastres. D'ailleurs, il y a une petite augmentation.
20 piastres, c'est bien cher. Toi,
c'est 25 même. Ouais. Sur iTunes, actuellement, louer un film. Fait que ça, c'est les principales. Il y en a d'autres sur Prime, si vous voulez pas payer puis que vous voulez voir quelque chose sur un service que vous avez déjà. One Night in Miami. C'est basé, ça aussi, sur une histoire vraie. Quatre icônes afro-américaines qui ont passé la soirée ensemble dans les années 60. Malcolm X, Cassius Clay, parce qu'il n'était pas encore Muhammad Ali.
C'est ça.
Sam Cooke et Jim Brown. Les quatre passent une soirée ensemble et discutent.
Jim Brown, le joueur de football?
Le joueur de football qui est devenu acteur plus tard, effectivement. Donc, ces quatre personnages-là ont bien passé une soirée ensemble à Miami dans les années 60. Mais évidemment, les dialogues sont...
Comment
sont
ça s'appelle, ça?
One Night in Miami. Et c'est sur Amazon Prime. Donc, si vous avez le service Amazon Prime pour vos colis, vous avez accès au service vidéo Amazon Prime.
OK.
Là, vous me dites, ouais, mais nous autres, on a Netflix, Nico. Qu'est-ce qu'il y a sur Netflix? Il y a, comme on adore, ça a l'air, je sais pas pourquoi, faudra analyser ça un jour, notre passion pour les tueurs en série. Mais il y a une nouvelle série documentaire, Night Stalker Hunt for a Serial Killer. Et ça, c'est sur Richard Ramirez qui a sévi dans les années 80 à Los Angeles, un tueur en série. Ça a l'air que c'est bon. Et il y a Crack! Cocaine, Corruption and Conspiracy sur la pandémie qui a été le crack dans les années 80 là aussi aux États-Unis. Ça, c'est un documentaire, c'est pas une série et c'est sur Netflix aussi.
Il y a un auditeur qui nous dit au 25-226, j'aimerais faire découvrir L'Anse et Compte à mon fils de 12 ans. Est-ce que c'est possible à quelque part en DVD? En DVD, j'imagine que oui.
Oui.
Mais je vous avoue que je saurais pas trop où chercher précisément sur le web, mettons, ou sur certaines plateformes, mais ça doit se trouver relativement facilement, là, les L'Anse et Compte originaux. C'est une très bonne idée, en passant.
J'en regarderais peut-être sur Illico ou quelque chose comme ça.
C'est genre d'affaire-là, ouais. Exactement
vous
ça.
Vous savez, je suis pas nécessairement spécialiste des services francophones.
Ouais, L'Anse et Compte non plus. T'es pas un spécialiste, non.
j'ai regardé ça dans le temps, comme tout le monde.
Ben oui.
Mais 12 ans, c'est-tu un minimum, ça, ou,
Ben, L'Anse et Compte. Écoute, je l'écoutais moi-même à 10 ans, en 86. Je veux dire. Ouais. Il n'y a rien de... Il n'y a pas grand-chose de...
Jean Tremblay aimait ça, mettre en scène des femmes...
Oui. Mais là, écoute, à 12 ans, je t'annonce que...
Ouais. Plus vêtu, là.
Non, mais écoute, je serais qui
non, mais
pour...
moi, c'est dans le genre de série-là que j'ai vu mes premières images.
Mes premiers seins avec Natacha, puis tout ça. Puis écoute, mais j'écoutais ça à cet âge-là, en 86. Fait que d'après moi...
Chambre en ville aussi.
Chambre en ville, il n'y avait pas de nudité.
Ah, il y
ça.
En avait eu une.
Il y avait-tu de la nudité dans Chambre en ville? Arrête,
une fois, il y a eu un épisode, je me souviens en tabarnouche.
Me souviens-vous?
C'était comment qu'elle s'appelle Julie? Elle faisait la sœur de Lola, là.
La sœur de Pete.
Julie quelque chose
c'était pas la sœur de Pete, ça?
Tabarnouche.
Ça commence à être loin, Chambre en ville.
Ouais, il y a peut-être des autres sœurs.
C'était pas Grégory Charles qui était nu, là. C'était peut-être la sœur de Pete, là. OK, mais je me souviens pas pantoute d'une scène de nudité dans Chambre en ville,
Julie Deslauriers, son nom, en tout cas, bref, quand le jeune Jonathan s'en souvient encore. Là.
C'est sur les gens nous disent sur YouTube, ça se trouve aussi les L'Anse et Compte, mais d'après moi sur des plateformes style Illico aussi, il doit avoir moyen de. Puis c'est les L'Anse et Compte originaux là, qui sont les meilleurs, bien sûr. Saison 1, 2, 3 avec Pierre Lambert dans le National.
Ah ben oui, avec Marc Gagnon qui est gros
exact.
Comme un pou.
Ouais.
Il tue assez petit.
Tant qu'à jaser de ça, moi il y a une série. Puis je pense qu'il y a un buzz qui s'est comme recréé dans les dernières semaines parce que il y a une saison 4 qui est en préparation. C'est la série Borgen. Puis vu comme ça, l'histoire d'une politicienne danoise, tu sais, c'est pas nécessairement...
Je crée pas tant.
À prime abord, ça a pas l'air accessible, mais il y a plein de monde qui me parle de ça. Parce qu'ils sont en train de commencer à tourner la saison 4 qui va être disponible, je pense, en 2022. Puis il y a plein de monde qui me parle de ça. Je sais qu'il y a des articles qui ont été écrits dans les journaux sur cette série-là, sur une politicienne danoise qui apparemment est une excellente série sur Netflix. Je vais peut-être embarquer là-dedans dans les prochains jours. Je suis toujours dans la série Lupin, qui est inspirée... de façon assez indirecte de l'œuvre originale sur Arsène Lupin. Mon fils m'a dit cette semaine, papa, c'est la meilleure série de l'histoire de la télé.
Tiens.
Donc, vous comprenez un peu l'esprit là, il y a 10 ans. Donc, c'est pas une série c'est une série qui tourne un peu les coins ronds là, c'est une série un peu qui est pas nécessairement complexe et même il y en a qui vont dire que c'est un peu trop superficiel comme série.
Très mais... très grand public donc.
Ouais. Vous parlez.
Comment tu dis, Esther?
Oui,
c'est notre...
Je ne connais pas au monde, par exemple.
Non?
Moi, je trouve le temps que la deuxième série, deuxième portion de la première saison n'est pas sortie. Ça finit trop mal.
Dis-moi le pas. On vous présente notre Morning Man à Québec, Stéphane Dupont, que les gens de Québec connaissent, là, qui vient d'ouvrir la porte.
Sorties,
OK, merci, Steph.
OK, le conseil de Steph. Hey, ouais, tu voudrais-tu venir comme chroniqueur culturel, Steph, dans notre show?
Oui, notre Morning Man, Steph Dupont, qui est toujours le bienvenu, d'ailleurs, dans l'émission.
Il veut pas dire que ça finit mal, dans le sens que c'est tragique. Il veut dire que ça finit trop sec. Donc, attendez que la suite soit sortie.
Ben, c'est ça, parce que la suite sort bientôt, je pense. J'ai pas la date précise.
Ils font comme des demi-saisons, comme Casa del Papel.
Ouais, c'est ça. Puis ça s'en vient, Casa del Papel aussi, la nouvelle saison. Je pense que c'est au printemps. Il y a toutes sortes de rumeurs sur avril.
La rumeur, c'est avril, mais il y a rien d'officiel de Netflix.
Je me demande si le concept aura pas été brûlé, là, Casa del Papel. le papel.
Ben, je suis un peu d'ailleurs. Ça vire de tour un peu. Ça vire en rond, mais c'est un succès tellement.
Tu peux pas faire 10 saisons avec un concept comme ça.
Non, mais je les comprends de l'avoir fait parce que, veux pas, je suis le premier à dire que ça tourne un peu en rond, mais c'est sûr que je le regarde. Tu comprends-tu? Je peux pas ne pas le regarder. Ça a été trop. ça a été trop. Trop marquant. Ah. C'est trop. Ça fait trop partie de la culture pop maintenant, je pense, pour dire on la regardera pas, là.
Dans les séries qui ont marqué, justement, là, Narcos, j'imagine qu'il doit y avoir une autre saison qui s'en vient éventuellement.
Ben, on n'était pas rendu à Narcos Mexique.
Ouais, c'est ça.
Il
ouais.
y en a eu comme deux différentes, là, mais écoute, je sais pas.
Parce que ça, c'est très, très bon. Le, même la suite, quand tu n'étais plus dans, c'était quoi, c'était deux ou trois premières saisons que c'était Pablo Escobar, là. Mmh. Là, après ça, tu dis, ouais, ils vont réussir à coter ça, mais finalement, c'est la suite sur les cartels au Mexique, c'était tout aussi bon. J'espère que ça va se continuer. Une autre série que j'ai trouvée marquante, puis j'ai pensé à ça parce que tu disais la politique danoise, on y pense pas vraiment. Celle-là, il y a comme, c'est sur un fond de politique anglaise, au Royaume-Uni, mais il reste que l'intrigue n'est pas politique, mais la série Bodyguard. Oh,
ça, c'est sa coche solide.
Hey, c'était wow, bon,
quelle
c'est
série, là.
C'est assez bon.
Ça, c'est
quête. Il faut que ça revienne. J'espère qu'il y a une deuxième saison qui est en préparation.
Il faut, mais
il y
avait ça.
Juste 6 épisodes.
Puis vois-tu, des fois, on parle des nouvelles séries qui sortent, puis, mais des fois, regardez une série qui est sortie il y a 3 ans. Là, si vous l'avez pas vue, tu sais, je parlais de Borgen tantôt. Là, il y a plein de monde qui m'en parle. Je vois, même si ça date de presque 10 ans, apparemment que les téléphones cellulaires ont mal vieilli, là, ça frappe au début. Mais je vais me la retaper quand même. Puis Bodyguard, tu n'as pas vu ça encore. C'était que.
Faut regarder ça. Mais tu vois, moi, j'ai commencé la semaine dernière Peaky Blinders.
Oui.
Parce que j'ai des amis qui me parlaient de ça. Je pensais que c'était quelque chose de nouveau. Mais là, je commence la première saison. Je me rends compte que c'était en 2013.
Oui.
Il y a eu 7 saisons. C'est vraiment très, très, très bon. Ça donne beaucoup envie de fumer puis de boire du scotch parce que c'est dans chaque scène, là.
Mais ça, est-ce que c'est très bon? Est-ce que c'est grave encore, là? C'est une bonne série télé. On parle de l'ancien. Les jeunes parlent de l'ancien. Compte, là. C'est comme pas récent, ça, trop, là.
Ben non, mais c'est tellement...
Si la série est bonne, est-ce que ça vous dérange? 25-226, est-ce que ça vous dérange si ça date de 3, 4, 5 ans? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup la culture de la nouveauté Netflix. Dès que c'est sur Netflix et c'est nouveau, automatiquement, c'est un buzz. Mais il y a plein de cochonneries qui sont nouvelles sur Netflix.
Mais moi, je suis rendu, Nico, OK, puis je suis pas le gars le plus hyper techno, les gadgets puis tout ça, mais... Ça me gosse un peu. Comme là, Borgen, il y a un détail qui me gosse, c'est que ça date d'il y a 10 ans, la première saison. Fait que là... Écoute, les cellulaires, c'est sûr que c'est pas les cellulaires. La qualité de l'image, hey, c'est rendu écœurant, là, la qualité de l'image maintenant, le 4K. Je vais vous parler d'une autre série sur Apple TV Plus. Si vous cherchez des affaires à faire en fin de semaine, moi, la série Téhéran, j'ai capoté là-dessus, là, l'agent du Mossad qui s'infiltre en Iran pour réaliser une mission. Mais l'image de ça, Nico, t'sais, compare à la qualité de l'image qu'on a aujourd'hui à ce qu'il y avait il y a 10 ans. Je veux dire, c'est gossant. Là,
c'est sûr que c'est gossant,
séries,
oui.
Tu sais, ça peut être un... Je dis pas que c'est une raison de pas regarder, mais ça peut gosser au début.
C'est le désavantage, je trouve, d'avoir des plus gros écrans qu'avant. C'est que tu vois plus quand la qualité
différence.
De l'image est en définition standard.
Ouais.
C'est plus laid longtemps. C'est comme quand tu agrandis une photo, ça devient de plus en plus pixelisé.
Exactement.
Moi, j'ai un truc pour ça, là.
Une barre
tu gardes une télé relativement vieille avec
une
barre
TV.
Verte dans la partie à droite, de haut en bas, qu'on t'offre depuis 2 ans, je la vois plus.
Mais
je la vois plus, la
barre. Mais quand tu vas changer ta télé, Joe, là, puis je vous le dis, là, je suis loin d'être un gars hyper techno, puis ça accroche, là. Mais le sport en 4K, la NBA a beaucoup de matchs en 4K. C'est pas toutes les ligues qui ont ça, mais il y a du hockey en 4K maintenant depuis 2 ans, je pense, à TSN. Basket, je pense qu'il n'y a pas de football encore. Mais une fois que tu as vu ça du sport
mais
en 4K.
Le hockey
là,
en 4K, tu vois une différence?
Ah oui, clairement, je te jure. Puis je te dis, là, je suis pas un expert loin de là, Joe. Là.
Ben c'est quoi? C'est dans la clarté de la couleur?
C'est dans la clarté, les détails, la beauté de l'image.
Puis,
c'est
Carey Price fait 40 millions par année en 4K.
Ouais, Tom Brady est encore avec les Pats dans le 4K. Non, c'est pas vrai. Mais je te dis, là, des fois, je fais la comparaison parce que sur mon service. Tu sais, t'as TSN 4K, c'est un poste à part, puis il n'y a pas beaucoup de stock encore dessus. Mais quand je change les postes, sérieusement, tu vois la différence. Tu vois la différence entre les deux.
Et c'est toujours le problème avec la haute définition, ou tu sais, la qualité dans n'importe quoi, c'est que ça te manque pas nécessairement tant que tu l'as pas essayé, mais une fois que tu l'as essayé, tu veux plus
retourner
en arrière.
C'est ça, exactement.
Il y a beaucoup de trucs qui semblent superficiels, mais c'est plus difficile de retourner en arrière.
OK, déjà 10h19, on va s'arrêter, mais juste avant la pause, je voudrais dire une chose hyper, hyper, hyper importante, un débat qui fait rage au Québec. Je le trouve beau en maudit, moi, le logo de FC Montréal.
Burk.
Je le trouve super beau. L'impact, là, C'était quétaine.
Ah, mais ça veut pas dire que l'impact, c'était beau. Non, ça se peut que le nouveau soit pas plus beau non plus.
Moi, je le trouve très beau. J'ai hâte de voir le chandail. J'ai vu les... c'est parce que j'ai vu le toute la merch. Je devrais pas dire la merch, là. Les produits dérivés. Les hoodies pis tout ça, puis j'ai vu ça, c'est niaiseux, mais j'ai vu ça sur l'Instagram de Sébastien Benoît hier, qui portait les nouveaux vêtements. Sérieusement, c'est très 2021, là. Puis la quétainerie de l'Impact, moi, je m'ennuierai pas de ça, là, le logo quétaine et le nom quétaine de l'Impact.
Je m'ennuierai pas de l'Impact.
Je suis le seul à penser ça aujourd'hui. Moi, je suis pas un fan de soccer, pas en tout, mais j'aime ça le marketing sportif.
Et on l'a pas mentionné, là, mais il y a comme eu un divorce là, entre l'Impact puis le 98.5, notre station sœur, ouais, là, ouais. Puis notre collègue Jérémy ouais. Filosa, qui mentionnait que les relations avec l'équipe ont jamais été faciles. Avec l'organisation, là, ça a l'air que c'est pas des gens qui sont nécessairement à l'écoute, qui
aiment pas la critique beaucoup.
Non. Ouais, fait que, tu sais, je comprends qu'on dit que le soccer, c'est bien populaire, là, mais moi, je... En tout cas, c'est pas le nouveau nom. Le football club dans la Major League Soccer me fera pas adhérer, là.
Non, moi non plus, je me mettrais pas à regarder ça non plus, mais je m'intéresse à ça, tu sais, les logos des équipes de sport, les chandails, tout le côté commercial du sport. Ouais. Puis je trouve que c'est très 2021. Je trouve ça super beau, mais je suis le seul.
Mais on m'a dit que sur les forums de spécialisés en campagne publicitaire, en branding, en graphisme, il y a des gens qui cherchaient à savoir si qui a fait ça, là, que c'était pas bon.
Qui aimait pas ça, okay.
Mais encore là, des fois, c'est le milieu qui juge le milieu. Là. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les gens apprécieront pas? Mais ça a vraiment causé une commotion hier.
Oui, il y a beaucoup de comparaisons avec un club de ski de fond de la Gaspésie, mettons. moi, je trouve ça beau. Je trouve que ça représente Montréal. Je trouve que ça représente le Québec. Je trouve que non, je...
C'est un signe de métro, moi, je trouve.
Non, oui, c'était voulu. Je pense que c'est voulu, ça. C'est à l'image de Montréal. Mais moi, je trouvais ça. Faut dire que je trouvais ça archi-quétaine avant l'espèce de l'impact. C'est,
bref, c'est un signe de n'importe quoi sauf du soccer.
Ouais, mais ça représente, en tout cas, regarde.
T'as tous des joueurs qui jouent en rond autour du ballon. Ça pourrait ressembler à ça.
Ah, 10h21, vous écoutez Trudeau Landry, on vient.